Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Programme cette semaine, programme chargé pour ce deuxième épisode de la saison 10 de Silence on Joue. Rappelons-le, les numéros sont importants. Le deuxième épisode en vidéo, on est sur YouTube, il faut le rappeler. Mais bon, on est aussi en audio parce qu'on reste un podcast, c'est vrai, quoi. Il faut pas oublier. Bref, le programme cette semaine, on va parler de Seasons After Fall, le troisième jeu des Montpelliérains de Swing Swing Submarine. Sur Montpelliérains ?
Oui,
sur Montpelliérains. Je vérifie quand même. Deus Ex, Mankind Divided, Mother Russia Bleeds, là aussi des Français chez Devolver cette fois-ci. Run, Gun, Jump. Gun ?
Bravo, tu l'as dit du premier coup.
Du premier coup. Par contre, je meurs beaucoup aussi. Du premier coup, c'est pas souvent dans ce jeu-là. Et puis voilà, pour ce qui est des jeux vidéo. Et puis Monsieur Fall, et puis le com des coms. Et puis je vais commencer quand même en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Corentin Benoît Gonin, du journal du gamer et du podcast Passe le stick.
Salut Erwan.
Et puis Yann François, bonjour Yann.
Bonjour Erwan.
Alors trois couleurs et plein de choses. Et puis le podcast ZQSD aussi. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas habitués, parce que qui nous découvrent sur No Life ou sur YouTube, voilà, c'est aussi l'idée dans Silence on Joue. Il y a des chroniqueurs qui viennent d'un peu partout, voilà, pour parler, pour partager leur savoir, leur connaissance encyclopédique du jeu vidéo, bien sûr, hein. Je mets la pression un petit peu. et voilà, on va commencer avec toi Corentin, à propos de Steam. Il y a eu un petit polémique, débat, tout ça.
Ouais, on va dire un changement de paradigme pour Steam. Donc, en fait, Steam, on va venir à la façon dont Steam a d'imposer, on va dire, ses règles, parce que bon, Steam a quand même, et Valve a une position assez monopolistique sur, on va dire, la plateforme PC, puisque...
Non,
non en fait, puisque voilà, bon, tout le monde...
Bundle,
ouais, mais bon, ils te vendent des clés Steam, mais c'est justement un des soucis. Donc, Valve a décidé, puisqu'ils se sont rendus compte sur les reviews, vous savez, quand vous arrivez sur une page d'un magasin Steam, en bas, vous avez les reviews du dit jeu, avec donc soit des reviews positives, le petit pouce bleu vers le haut, ou alors des reviews négatives, avec le petit pouce rouge vers le bas.
Consommateur, du coup.
Oui, consommateur, absolument.
Jeu, ouais.
Voilà, et des gens qui ont le jeu, qui ont acheté le jeu, ou qui l'ont obtenu d'une manière ou d'une autre. Et en haut de la page Steam, vous avez un petit pourcentage, les avis récents les avis globaux. Et ça apparaît aussi sur la liste des jeux qu'on fait une recherche, donc c'est quand même quelque chose qui peut influencer l'achat ou le non-achat, hein, quand vous
rechercher un jeu.
Si tu vois un petit pouce rouge à côté de ton jeu, à côté du jeu que tu veux acheter, tu vas quand même te poser des questions.
Ouais.
Et donc Steam s'est rendu compte que sur certains jeux, la proportion de votes positifs venant de clés CD était beaucoup plus forte que les reviews positives venant d'achats directement sur la page Steam. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui ont reçu un code, d'une manière ou d'une autre, donc soit en achetant le jeu en retail, soit en ayant backé sur Kickstarter, en ayant reçu la clé directement du développeur, soit, je ne sais pas, des journalistes comme nous, on reçoit quasiment que des clés hein, quand il s'agit de tester des jeux sur PC, ou alors, et c'est certainement là, de là d'où vient le problème, bah, des développeurs qui, pour monter artificiellement leur taux de pourcentage de bonnes critiques, vont donner des codes en échange d'un petit avis sympa. Bon, je te donne mon jeu, et puis tu dis que t'as adoré, quoi. Et donc, certains jeux avaient un taux très important de ces clés CD avec avis positif. Donc, Steam a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, on va mettre un filtre sur les pages qui sera par défaut mis sur uniquement les reviews venant d'achat direct sur le magasin, donc des gens qui ont forcément dépensé de l'argent pour avoir le jeu. Et concernant les pourcentages qui est en haut et qui disent si le jeu est bon ou mauvais par rapport aux utilisateurs, ça ne prendra plus du tout en compte les gens qui ont eu leur jeu via une clé Steam. Donc évidemment,
une clé non achetée sur Steam, en fait.
Une clé qui n'est pas achetée directement dans le magasin.
Faire des versions boîte avec une clé à l'intérieur,
par
exemple.
Ça peut être ça, mais ça peut être stylé Humble Bundle. Ça peut être, dès que tu rentres un code dans Steam pour activer un jeu, ça ne rentre plus dans la considération des avis utilisateurs. Donc évidemment, une fois que cette nouvelle mesure a été mise en place par Steam, de nombreux jeux ont baissé, par exemple, de 10 points. Il y a eu des chutes de notes. Voilà, il y a eu des développeurs du coup qui sont arrivés en disant qu'ils n'étaient pas contents de voir ce changement et qui ont dit bah oui, mais moi j'ai un problème parce que l'immense majorité des gens qui jouent au jeu et qui apprécient le jeu sont mes backers sur Kickstarter qui ont reçu un code. Donc voilà, vous empêchez finalement à ces gens de pouvoir s'exprimer et de conseiller le jeu s'ils ont aimé. D'autres reconnaissent évidemment qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, que certains développeurs ne sont pas honnêtes, qu'ils ont des systèmes de manipulation de pourcentage comme ça, d'avis positifs. Mais ils disent, comme d'habitude, Valve, au lieu de faire un truc chirurgical avec des algorithmes machin, ils y vont, tapis de bombe, ils cassent tout et ils voient ce qui se passe. Et c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait finalement avec je sais pas si vous vous rappelez, la polémique des modes payants, qui avait été une catastrophe de com. Enfin, ouais. Valve a dit, à partir de maintenant, il y a des modes payants. Et là, tout le monde a râlé, mais de telle force que Valve a fait, bon, finalement, on ne le fait plus, et ils ont retiré la mesure. Donc peut-être que là, ils ont un peu la même méthode, c'est-à-dire ils tentent une grosse mesure, ils regardent comment ça réagit, puis après, ils modèrent un petit peu leurs propos. Donc c'est peut-être ce qu'ils veulent faire là aussi.
En même temps, bon, sans vouloir prendre la défense forcément de Valve, finalement, ces reviews, elles servent surtout aux gens qui vont payer pour acheter, avoir par défaut l'avis d'autres personnes qui ont payé au même endroit, parce que voilà, ça ne marche que quand tu es sur Steam. Donc c'est des gens qui ont payé sur Steam. Donc avoir un filtre qui par défaut considère que c'est les gens qui ont aussi payé sur Steam qui vont pouvoir conseiller cette personne-là le mieux, ça me paraît pas particulièrement choquant. Mais je sais pas, j'ai peut-être pas tous les éléments, mais c'est...
Au-delà du phénomène de grogne, je trouve que ça aussi permet de lever un voile sur la pratique liée aux évaluations. Certains joueurs vont même jusqu'à faire du chantage auprès des studios pour avoir des clés gratuites, sous peine d'aller balancer des notes négatives et tout ça. Donc ça a créé, même s'il le fait avec ses gros sabots, Steam, il soulève quand même un problème de malhonnêteté qui est lié à tout ce problème de la clé. Quoi.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait imaginer des solutions assez simples. Par exemple, il y a des revendeurs partenaires de confiance, typiquement Humble Bundle. Il est tout à fait possible d'identifier quelles clés ont été données à Humble Bundle pour les réintégrer, parce que ça reste des gens qui ont payé aussi.
Après, une solution simple pour gérer le problème des avis sur Internet.
C'est de supprimer les avis sur Internet.
Supprimer Internet.
Voilà. Pas mal.
Et le dernier point, très rapidement, on va dire, qui pourrait poser des interrogations, c'est évidemment la place complètement surpuissante de Steam sur ce marché-là. C'est-à-dire que Steam dicte un petit peu sa loi, et finalement, qu'est-ce qui risque de se passer? Certains développeurs le disent. Ils disent, à partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encourager tous les gens à aller acheter le jeu sur Steam.
Et voilà. Donc, encore moins de sorties boîtes, peut-être. Voilà. Complètement arrêter les versions comme ça.
Et du coup ça ne pourra que renforcer la situation
de Steam, en fait.
C'est aussi dans l'intérêt de Steam. C'est peut-être pas pour ça qu'ils l'ont fait, je fais pas de procès d'intention, absolument pas, et c'est un vrai problème. Mais dans les faits, c'est ce qui risque d'arriver. Les développeurs vont dire, s'il vous plaît, achetez-le sur Steam pour dire que mon jeu est bien. Voilà.
Et ben voilà. Yann, changement d'époque drastique. Chez Blizzard drastique. Il y a un avant et il y aura un après.
Je pense qu'il y en a eu. Il y a eu plusieurs avant et plusieurs après. Et effectivement, cette semaine a été assez éloquente sur la façon dont Blizzard évolue. Parce que d'un côté, tu as l'entreprise tonitruante, voilà, je ne sais pas combien ils ont de chiffres sur Légion, mais après 11 ans de WoW où ils continuent à faire des millions, Overwatch a très très bien marché. Donc vraiment, c'est l'entreprise qui roule.
Hearthstone,
effectivement.
Cache la vie, voilà.
Mais
faut que j'en parle.
Vas-y. cette semaine, pardon, il y a eu deux annonces que j'ai retenues. Déjà, la principale, c'est le départ de Chris Manson, donc qui est une figure tutélaire vraiment de Blizzard. Il était le poste officiel et vice-président de la direction créative, qui, à 42 ans, a décidé de raccrocher les gants. 22 ans chez Blizzard, il avait bossé dans nulle autre boîte de jeux vidéo. Alors, il dit qu'il va s'occuper de sa famille. Je pense qu'il a, il a de quoi faire vivre trois générations derrière lui.
Au moins.
Et c'est quelqu'un d'important parce que lui, il a vraiment commencé tout en bas de l'échelle. En 94, il rentre chez Blizzard. Il commence à faire des illustrations pour les boîtes, et notamment la notice de Warcraft. Et peu à peu, il évolue, et en 96, on le nomme un peu directeur de l'univers graphique, narratif de Diablo. Ça se passe très très bien. Ça se passe pas du tout bien pour Starcraft, qui devait sortir en 96. Le jeu est montré à l'E3, il est hué, moqué par la presse. Et là, du coup, Blizzard appelle à rescousse Madsen en disant « Écoute, ils veulent pas d'un Warcraft dans l'espace, est-ce que tu peux pas faire un truc à ta sauce ?» Et du coup, il a repensé entièrement le design graphique, mais aussi le système des trois races. Enfin, il a vraiment inventé l'univers, c'était vraiment un créateur d'univers. Et après, il a continué sur Diablo 2, Warcraft 3, il a beaucoup travaillé sur World of Warcraft.
Tu l'avais rencontré à une BlizzCon, effectivement.
C'est un peu la tête pensante créative, ouais. Il est bon en interview. Il était aussi comédien, doubleur pour ses propres jeux. C'est à lui qu'on doit la voix de l'orque Thrall et Bastion dans Overwatch aussi.
Ah oui.
il a même aidé sur le film de Duncan Jones, le film Warcraft. Et voilà, c'est quand même un départ assez majeur.
Un des piliers de Blizzard.
Montre que la boîte évolue. Et ça fait écho à une autre news qu'on a eue cette semaine. C'est Rob Pardo, qui lui était parti en 2014. C'était le principal concepteur de World of Warcraft. C'était aussi un directeur créatif assez influenceur, on va dire. Et il était parti en 2014. Il avait entraîné plein de gens avec lui, le directeur de Diablo 3, le directeur technique de Battle.net. Alors au début, il était question qu'il fasse partenariat avec Unity, avec le moteur, il voulait développer, se faire un peu l'ambassadeur de ça, et puis non. Finalement, cette semaine, il annonce qu'il a créé donc son nouveau studio, avec toutes les personnalités que j'ai citées. Bonfire Studios, effectivement. Alors, c'est un studio indé, mais qui part avec un capital de 2 millions de dollars, parce qu'il s'est fait aider par Riot Games et un fonds d'investissement.
Très indépendant.
On a connu pire départ. Et,
il part de Blizzard, il se fait soutenir par Riot.
Tout va bien. Après, il met ça en avant en disant que c'est peut-être le seul studio éditeur qui met avant tout le joueur en avant. C'est vrai que la com de Riot n'est pas du tout sur les personnalités. C'est vraiment la communauté d'abord. Et je pense que ce patronage-là lui permet, comme il l'exprime, il a un blog, il l'a ouvert là. Il dit qu'il a créé ce studio-là pour justement revenir à cette idée de camaraderie, de regrouper les joueurs. C'est pour ça qu'il choisit la métaphore du feu de camp. Je veux dire, tout joueur de Dark Souls saura que c'est un endroit de réconfort. Et voilà, il veut revenir. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de jeu. Il a rien annoncé à part ça, qu'il était parti sur ce projet-là. Mais il y a un truc qui m'a intéressé dans son espèce de discours d'ouverture, c'est qu'il veut faire un studio sans bureaucratie, comité ou middle management en chemin.
À la Steam, quoi, un petit peu. Ouais. À la Valve, pardon.
À la Valve. En tout cas, pas à la Blizzard. Clairement, je pense que c'est à peine déguisé. Donc, ça a bien changé.
Ça a bien changé. Ça.
Mais c'est tant mieux, on attend avec...
Pour eux, c'est pas on s'inquiète pas. On s'inquiète ou on s'inquiète pas?
Non, puisque les jeux sont bons en même temps. C'est juste, c'est pas la même époque.
Patrick, c'est un anniversaire.
Oui, un petit reminder qui m'a fait bizarre en voyant la date. ça m'a fait tout drôle. En fait, ça va faire 20 ans que le premier Tomb Raider est sorti. Le premier Tomb Raider qui avait révolutionné à l'époque le genre action-aventure. Il avait quasiment créé un genre à lui tout seul à l'époque. On se rappelle qu'on passait des jeux de plateforme à ce jeu en 3D qui apportait action, aventure, énigme. Enfin, il y avait tout un mix de plusieurs jeux, plusieurs genres réunis dans une seule expérience. C'était assez nouveau. Et donc ça fait 20 ans, il est sorti je crois en novembre 96, ça va faire 20 ans cette année, là, dans les semaines qui viennent. Du coup évidemment l'éditeur Square Enix et slash Eidos qui est donc derrière Tomb Raider annonce quelques festivités et notamment une réédition de Rise of the Tomb Raider qui est le dernier volet en date dont on avait parlé il y a à peu près un an, c'était en fin 2015, qui était donc la suite du fameux reboot de 2013, qu'on avait fraîchement accueilli, puisqu'on avait été, c'est vrai qu'autant on avait pas mal parlé de ce reboot de 2013 comme une vraie remise à plat de la série avec des vrais partis pris en termes de mise en scène, etc.
Une modernisation.
Exactement, une vraie remise en question du personnage. Et c'est vrai que ce Rise était un petit peu plus...
Tout pourri. Non,
ce que le jeu était agréable. Maintenant, il n'était pas forcément au niveau de celui du précédent.
Dans une continuité.
Voilà. Une continuité un petit peu plus.
Il y a ce moment où la manette avait poum.
Donc, il revient. Donc, pour les 20 ans, donc, en fait, on va avoir le droit à une version enrichie de ce Rise of the Tomb Raider qui va accueillir notamment un chapitre additionnel, Les Liens du Sang, et un chapitre.
Au début ou à la fin?
Alors, plutôt vers la fin, je crois.
Moi, j'ai pu le tester à la gamme.
Donc, ça, c'est au début. En fait, parce que j'ai vu qu'il y avait un chapitre vers la fin qui va s'appeler Le Cauchemar de Lara, oui, qui m'a rappelé des bons souvenirs de Tomb Raider 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin de Tomb Raider 2, où on était dans son manoir et on devait se débarrasser d'attaquants dans le manoir. Et là, en fait, on retrouve le même principe où on va donc retrouver Lara Croft dans son manoir attaquée par des zombies. Donc voilà, le surnaturel est toujours là, c'était déjà là.
Il y a eu des jeux avec des zombies déjà avant, dans l'histoire du jeu vidéo, je sais plus.
Non, c'est la toute première fois. Et surtout des DLC.
Nouvelle édition, et surtout arrivée sur PS4. Parce qu'on se rappelle que le jeu était initialement sorti uniquement sur Xbox One. C'était une exclue Microsoft. Ce qui fait que le jeu avait eu un succès limité, parce qu'il était uniquement sur une machine.
Là, il est prévu, il est prévu pour novembre.
Donc là, il arrive pour octobre. Donc ce ne sera pas forcément pour les 20 ans, c'est un petit peu avant. Il arrive sur PS4, on a un niveau qui sera compatible PlayStation VR, donc ça on va voir à quoi ça ressemble exactement. Et puis il y aura
un système... Je l'ai testé, n'en attends pas beaucoup.
Et il y aura visiblement la possibilité d'utiliser des skins rétro d'anciens Tomb Raider dans le jeu actuel. Tout ça sera inclus dans la version PS4 qui elle arrive fraîchement en octobre, et a priori il y aura tout un système de DLC pour les versions PC et Xbox One qui était sorti donc l'année dernière, donc pour le mettre à jour vis-à-vis de ces nouveaux contenus.
D'accord.
Voilà. Allez, une petite parenthèse, je reste dans le rétro. je ne sais pas si on en a déjà parlé dans Silence on Joue.
On sait que
Nintendo est plutôt calme en fin d'année sur les consoles de salon, puisque la NX n'arrivera pas avant mars 2017, a priori. Ouais. Donc, histoire de combler quand même un petit peu la fin d'année, on sait maintenant que Nintendo a annoncé une classique mini, une NES version miniature, qui va sortir le 10 novembre, qui va être plus petite que le modèle de la fameuse NES des années 80, qui va être... doté d'une prise HDMI, ça c'est plutôt bien, pour avoir une sortie vidéo à peu près propre.
J'imagine, ils sortent un truc juste avec la périphérie.
C'est qu'ils en seraient capables, les gars.
La sortie, il n'y a que la péritelle, les gars. Débrouillez-vous.
HDMI va être inclus, on aura une trentaine de jeux en mémoire. Il faudra voir le rendu visuel de tout ça, parce que ça va être de l'émulation de la NES.
Ce sera clairement de l'émulation.
Évidemment,
l'émulation récupérée sur Internet, en plus, comme ils ont déjà fait avec la console.
Il faudra voir le rendu visuel à l'écran, peut-être qu'on en reparlera ici même.
C'est un vrai intérêt, notamment pour les fans d'émulation, enfin de vieilles consoles aussi, c'est que c'est vrai que le problème des vieilles consoles, à moins que tu les modifies, ça bave à l'écran sur les écrans plats.
Oui, le rendu péritel.
Si c'est de l'émulation plus HDMI, ça fera des ça pixels très propres. Très
ça, propre. Il faudra le vérifier. Évidemment, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas de port cartouche. Enfin, la bécane est une réplique, mais elle ne s'ouvre pas, on peut pas mettre de cartouche. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai que ceux qui ont une petite collection...
Ils te vendent à côté une fausse cartouche pour souffler dedans.
C'est dommage. Une collection de cartouches.
Ouais, l'accessoire. Franchement, appelle Big Ben ou je sais pas, des gens pour faire la fausse cartouche. Ça, c'est bien.
Donc ça sort le 10 novembre.
Avant de parler d'une œuvre marquante de cette rentrée littéraire. Le com des coms de la semaine dernière, parce que je vous avais dit, c'est le principe dans Silence on joue, on a le com des coms. Alors, on va commencer avec Red. Red qui parlait de No Man's Sky, qui dit qu'il essuie les plâtres, c'est vrai. C'est vrai qu'en termes de chiffres, au moins, il fait plaisir. Et Red de faire un petit récapitulatif des différents jeux à grande envergure, hein, où il y a un nombre de zéros derrière impressionnant. Et en 1984, donc c'était Elite. Là, j'ai été assez étonné parce que Elite, il n'y avait que, entre guillemets, parce que 2048 planètes, c'était 8 galaxies avec chacune 246 planètes. Moi, dans mon esprit, enfin, je sais pas, à l'époque, j'avais un tel vertige quand j'avais lancé Elite que pour moi, il y avait des millions de planètes et
ça. Ça reste énorme pour...
Non, mais ça reste énorme pour 1984. Format, 1984, un truc de dingue. 1988, Captain Blood, dont on a parlé la semaine dernière, qui avait 32 768 planètes. En 2000, il y a un jeu qui s'appelle Noctis d'Alessandro Gignola sur PC, qui est le record du terrain de jeu aléatoire le plus vaste avec 180 000 années-lumière de diamètre. Donc c'est grand, hein. 180 000 années-lumière de diamètre, c'est grand.
Ça fait combien à Paris pour acheter un appart comme ça?
Mètre carré, ça fait cher. Ensuite, en 2010, Pioneer, qui était un remake de Frontier, donc Elite 2, fait par un fan qui était très grand. Alors, on n'a pas les chiffres, là, pour le coup. En 2012, là, dans les grands chiffres, il y avait Curiosity, rappelez-vous, cette espèce de truc de Peter Molineux, où il y avait 68 milliards de petits cubes à tapoter entre tous les joueurs pour arriver au cube final, et le mec qui appuyait sur le cube final avait une récompense qu'il attend toujours.
Trailer.
Ouais, c'est vrai.
Qu'il a partagé immédiatement. Donc ça n'a vraiment
le mec a gagné. Le mec a gagné une interview à Rock Paper Shotgun voilà. Pour dire à quel point il était déçu, c'est bien.
Il était censé participer au développement du fameux Godus là que tout le monde
attend. Le Godus de...
Et donc évidemment, No Man's Sky, avec 18 trillions remarques de raid, il est peut-être temps d'arrêter de se concentrer sur les chiffres et les algorithmes et de retourner un peu à l'école du gameplay. C'est vrai que c'est ce qui manquait peut-être un peu après. Et puis donc Red de poser aussi quelques questions un peu fourbes à la fin de son poste. Hein, genre, est-ce qu'on oublie définitivement le sujet de la 300e de Silence on joue? Bah oui, parce que la 300e de Silence on joue, c'était l'année dernière. Là, j'ai fait les calculs, cet épisode, ça doit être la 312e ou quelque chose dans le genre. On avait promis un enregistrement public qui n'a pas eu lieu. Donc on fera peut-être la 300e, un de ces quatre. Ce serait bien d'avoir un enregistrement public quand même cette année.
Peut-être la 300e en fait.
Ou pour les 10 ans qui devraient arriver.
Bah les 10 ans, ils arrivent à la saison prochaine, c'est au début de la 11e saison.
On va faire la 300e en retard plus les 10 ans, tu vois.
On peut le faire deux fois. Et enfin, le multiplateforme, c'est top, mais peut-être faudrait-il rappeler le lien du forum pour que la communauté qui s'agrandit, et c'est super chouette, ne se disperse pas trop. C'est vrai que maintenant, on a des commentaires, donc dans Silence on joue, on a des commentaires chez nos amis de No Life, parce qu'ils ont des forums très actifs, on a des commentaires sous les vidéos sur YouTube, c'est un petit peu le bordel. Donc c'est vrai que, par exemple, pour le Comme des Coms, moi je vais sur les forums officiels de Silence on joue, qui sont trouvables à écran.fr, écran au pluriel, .fr/forum au pluriel, et vous arrivez pile poil sur Silence on joue, les forums officiels. Voilà. Et bref, un autre internaute avec un pseudo imprononçable, ça n'arrive jamais, je comprends pas, qui s'appelle Soyfren, qui dit, et c'était pas le seul, et ça m'a fait beaucoup rire, mais je voulais lire quand même, j'ai commencé par regarder la version vidéo de ce Silence on joue, et merde, vous n'avez pas les mêmes têtes que celles que mon esprit s'était fait avec vos voix. Et ça a été un problème pour plein de... c'est pas la seule fois.
Et, dans la vie, hein,
c'était trop perturbant, du coup j'ai arrêté, j'ai continué ce matin dans la voiture avec la version audio, mais c'était trop tard, vous m'avez volé. Mon Patrick Hélio, mon Joël Métro, mon Franz Durupt. Et voilà, Silence on joue est mort, vive Silence on joue. C'est donc bien une saison 1 qui commence. C'est assez rigolo, au moins on m'a aussi dit que ma tête n'allait pas du tout avec ma voix.
Silence on joue can't be unseen. Ouais,
c'est ça, exactement. Donc je rappelle, hein, écran.fr/forum si vous voulez faire un petit tour sur les forums de Silence on joue. Et avant de commencer, bah oui, parce qu'on on a commencé depuis longtemps, dis donc, cette émission. Mais bon, il fallait absolument parler de ça. Ça, cher Yann, oui, c'est normal, hein, tu es chroniqueur assez régulier quand même dans Silence on joue, et donc tu viens de sortir Half-Life, le FPS libéré chez Third Edition. Voilà, c'est pas vraiment de la promo ni déguisée ni rien, c'est juste que vu que tu fais partie de l'équipe, c'est aussi normal de parler de ce genre de choses. Ça fait combien de temps que tu bosses là-dessus ?
On va dire que donc il est sorti la semaine dernière, on va dire que ça m'a pris un an comprenant la recherche les 6 premiers mois, les 6 deuxièmes mois à l'écriture et la rédaction.
Les 6 deuxièmes mois. C'est pas grave. T'es hyper habitué à être interviewé.
Je suis tellement pas habitué à faire l'impro, je suis nul. Mais j'aurais dû prendre un sosie de moi et donner un discours.
Et donc c'est sur quoi? C'est sur toute l'aventure Half-Life
C'est sur la saga en elle-même. Donc on va dire que ça part de... du premier qui est sorti en 98 jusqu'à Half-Life 2 épisode 2 qui a clôturé
T'as une excuse sur Half-Life 3
là. J'aimerais bien vous dire oui, vous n'aurez qu'à regarder la fin du bouquin.
Il faut pas spoiler, peut-être.
C'est très mauvais en promo, il faut dire oui à la fin, je dis quand il sort Half-Life 3.
Je dis à quoi il va ressembler et tout. J'ai eu Gabe Newell en interview.
Et tu poses du Counter-Strike, du Portal
En fait, effectivement, j'ai pris Half-Life comme le point de départ de Valve, puisque c'est leur premier jeu. Mais surtout, Half-Life est un peu un ambassadeur aussi d'une philosophie de développement qui a mené à la création évidemment de Steam et de cet empire du jeu vidéo au PC.
Parce que Steam, c'est Half-Life 2 en fait, qui amène Steam.
C'est vraiment l'arme qu'ils ont mis en avant. Et voilà, donc je retrace un peu la naissance de tout ça, le processus créatif. J'ai pas pu avoir Newell en interview, mais j'ai eu deux de ces... deux personnalités, une qui est partie, donc Mark Laidlaw, qui était, on va dire, le chef narratif. C'est vraiment lui qui a fait en sorte que Half-Life ressemble à cet objet unique, c'est-à-dire en termes de mise en scène, sans cinématique, où toute la narration passe.
C'est vraiment le premier vrai FPS avec scénario, enfin, et puis aussi qui ont inventé cette façon incroyable de raconter l'histoire, où on a l'impression d'entendre des conversations qu'on aurait pu ne pas entendre, et ça, pour faire avancer l'histoire, c'était vraiment...
C'est exactement ça, c'est le premier FPS, c'est peut-être le premier jeu, qui intègre directement le joueur dans une mise en scène, dont il est à la fois l'acteur, mais... peut-être aussi le cadreur, c'est-à-dire que c'est un univers rempli de scripts qui se mettent en route automatiquement quand tu arrives, mais si toi tu n'es pas là pour les cadrer, tu peux passer à côté. Donc c'est vraiment un pari sur la narration qu'ils ont posé avec le premier, qui a révolutionné comme on sait, et puis qu'ils ont perpétué avec le 2. Je parle aussi de l'univers, parce que des fois on oublie un peu, même si le scénario de Half-Life en soi peut tenir sur une page, la force du jeu vient du fait que l'expérience fait que tu te racontes ta propre histoire. Et en dernière partie, j'aborde en quoi ce jeu est unique en termes d'expérience de jeu. Donc tout ce qui est mécanique, les influences autour, qu'il a pu avoir mais qu'il a reçu aussi, même s'il ne le dit pas frontalement. Et voilà, il y a une partie sur le développement de Valve et comment ça a transformé le jeu vidéo PC, mais peut-être aussi la commercialisation et on en parle encore aujourd'hui.
C'est une nouvelle sortie donc chez Sird qu'on avait reçue il y a quelques temps déjà dans Silence on joue et qui maison d'édition aux côtés de Pix & Love, c'est un peu les deux maisons d'édition de bouquins de jeux vidéo aujourd'hui en France qui font un Kickstarter en ce moment même pour traduire leur... traduire certains de leurs livres en anglais, qui marche bien, enfin qui n'est pas encore...
Ils ont bien avancé, il reste deux semaines.
Voilà, donc ça vient de sortir, Half-Life, le FPS libéré, vous pouvez l'acheter notamment sur le site de Sird.
Sur le site et puis dans les librairies.
Dans les bonnes librairies. Et ben voilà, merci.
Voilà, c'était le plaisir.
Mais on va commencer après... vachement de temps, le programme en termes de jeux vidéo, et on va commencer avec Seasons After Fall. After Fall du studio de Montpellier, Swing Swing Submarine Studio, bien connu des amateurs de puzzle games, notamment parce qu'ils avaient fait l'exceptionnel Blocks Admatter, enfin l'exceptionnel surtout qu'il était sorti de nulle part, moi je sais que je l'attendais pas du tout, et puis c'est un truc ultra référencé, super intelligent et tout ça, donc et puis quelques temps plus tard, Tetrobot & Co. une sorte de d'héritier de Blocks That Matter, mais déjà à l'époque de Tetrobot, on savait que Swing Swing Submarine préparait un truc avec un renard. C'était un peu leur truc. On avait vu quelques images ils en avaient déjà parlé. Enfin voilà, c'était un peu leur idée, leur grand projet, leur grand jeu de ce Seasons After Fall. Je vais Corentin, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Seasons After Fall ?
C'est vrai que comme tu dis, on entend parler depuis un moment de ce Seasons After Fall qui était en vrai le jeu qu'ils voulaient toujours faire à Swing Swing Submarine. Et c'est vrai qu'on croise souvent, notamment William David, qui est le lead designer du studio et qui est une personne très, très aimable, très gentille. Et quand on voit le travail qu'ils ont fait sur Tetrobot et sur Blocks That Matter, bah moi j'en attendais pas mal de ce petit Seasons After Fall, notamment au niveau du design des puzzles, du design de ce qu'on allait pouvoir y faire, notamment avec cette mécanique très intéressante, qui n'est pas forcément inédite parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres jeux type Oracle of Seasons pour du côté de Zelda, donc du changement des saisons et de toutes les modifications qu'on va pouvoir apporter à l'environnement pour résoudre des énigmes, des situations et tout ça. Donc, on contrôle ce petit renard, en effet. En vrai, on contrôle un esprit qui contrôle ce renard.
Une graine qui contrôle le renard.
Voilà. Donc, c'est une... voilà, au final, on contrôle le renard qui va petit à petit acquérir le pouvoir des saisons en visitant différents sanctuaires au sein de cette forêt un peu magique qui est habitée par les esprits et ouais. On va dire, des animaux totems qui représentent chacune des saisons. Donc, on va aller les visiter. Ils vont nous filer une saison. Puis ensuite, on va visiter l'autre et une saison et tout ça. Dans une forêt qui finalement peut se résumer en un gigantesque X, hein, comme ça, avec une saison à chaque branche du X. Et on va dire qu'au début, fatalement, on n'a pas beaucoup de saisons, on n'a même pas de saison du tout, donc on traverse des environnements en ligne droite, on court, on gambade dans les prés. On va dire que tout le début du jeu va être axé finalement sur un aller et un retour plus difficile, puisqu'en fait, le backtracking va être plus compliqué quand il va s'agir de repasser à l'envers tous les obstacles qu'on a passés qui étaient faciles, donc typiquement des précipices qu'on peut passer d'un côté mais qui sont difficiles à venir de l'autre. Et là, on va se servir de la saison qu'on vient d'acquérir pour apprendre finalement toutes les mécaniques inhérentes au changement de saison. Puis le jeu, une fois qu'on a toutes les saisons, on se dit bon, le jeu va enfin commencer. Je vous avoue que c'était déjà un petit peu long. On arrive finalement à moitié du jeu quand on finit d'acquérir toutes les saisons. Et on se dit mais waouh, j'ai vraiment l'impression d'avoir parcouru des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres avec ce renard. Parce que finalement les niveaux sont très longilignes. Et c'est à mon sens c'est un défaut de game design, enfin de level design plutôt, à mon sens. Et les énigmes sont pas forcément, comment dire, on n'arrive pas, on se dit ah, il y a un problème à résoudre, il faut que je trouve une solution. Ça arrive dans le jeu, mais c'est assez rare. Finalement, en fait, on arrive de temps en temps sur des moments où il faut passer un obstacle et il faut juste trouver la bonne saison. Donc, par exemple, l'automne pour faire pousser des champignons qui vont servir de plateforme sur lesquelles on va sauter. En été, il y a des lianes comme ça qui se déroulent, qui font des ponts, ou alors des bourgeons qui sortent et qui font des trampolines comme ça pour sauter un peu plus haut. En printemps, il pleut. Et donc, ça va notamment, il y a des plantes qui vont absorber l'eau, qui vont relâcher, il y a tout un système avec de l'eau qui monte et qui descend et qui se joue au printemps. Et vous avez l'été où grosso modo, l'automne, pardon. L'automne où il y a beaucoup de vent principalement. J'ai dit l'automne.
L'hiver
où il y a la neige et l'eau gèle, évidemment, ça sert, on peut marcher sur l'eau. Et au final, on n'a jamais vraiment d'énigmes dans le jeu qui nous fait vraiment réfléchir. Il y en a quand même deux ou trois, des grandes énigmes, je ne vais pas du tout les révéler ici. Mais je trouve qu'elles sont un peu trop rares pour que ce puzzle platformer soit vraiment intéressant dans ce qu'il a voulu faire.
Ouais.
Outre l'aspect graphique et sonore qui est franchement assez impeccable, enfin, moi j'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là, par quelques petits bugs techniques qui sont inhérents à Unity, mais ça c'est normal, c'est Unity, il y a des bugs. Mais voilà, c'est du spin painting, comme on peut le voir, c'est bien, il y a l'image maintenant, donc on peut le voir, mais du coup voilà, c'est du spin painting.
Faut pas le faire, c'est très très mal,
faire.
On reste
un podcast. Faire taper ça. Mais bref, donc vous avez des décors assez beaux, avec des couleurs donc, qui rappellent les 4 saisons, et speed painting, donc ça veut dire des traits, c'est très rapide en fait, le mec qui a fait ça, il a dû faire ça très rapidement, mais du coup ça donne un certain dynamisme au décor qui est tout à fait agréable, et franchement j'ai pas grand chose à dire sur les décors, ni sur la musique qui est très bien orchestrée. On sent qu'il y a Focus Home Interactive qui est venu à la rescousse du jeu pour le financer, notamment quand on se demandait s'il allait pouvoir avoir les moyens. On sent qu'il y a eu des moyens mis sur l'orchestration, avec beaucoup de cordes, des petites cordes pincées pour dire oh là là, regardez, on découverte, curiosité, ou un petit peu plus plombante quand oh là, regardez, c'est triste, l'animal est mort, je ne sais pas quoi, il y a pas, je ne révèle rien bien sûr, mais du coup, c'est très bien fait, et le doublage, même en français, est très bon. Il n'y a pas de problème.
C'est assez rare pour quand même. C'est clair.
Non mais c'est vrai, moi j'entends une voix en français, moi je fais oulala, c'est en français. Puis là je me suis rappelé que c'est un jeu français, donc je me suis dit je vais peut-être laisser sa chance à la bande originale quand même. Et j'ai pas regretté, le doublage français est très bien. Même si l'histoire finalement, moi je la trouve assez peu conséquente dans ce Season After Fall. C'est une fable tout à fait classique sur la nature, voilà, un petit conte. Ni désagréable, ni particulièrement intéressant, mais bon, voilà, on va pas juste mettre un jeu sans histoire. Et voilà, donc quand même une petite déception pour ce Season After Fall en ce qui me concerne, notamment sur le level design principalement, et on passe son temps à chercher son chemin et à courir partout, voilà.
Patrick.
Ouais, je suis assez d'accord avec Corentin sur son bilan. Moi, j'avais un petit peu peur en lançant le jeu, c'est vrai qu'il est magnifique, il a un visuel, il a un vrai cachet graphique, une vraie ambiance, la musique est très bien mariée avec le visuel. J'avais un petit peu peur du syndrome du jeu beau et creux à la fois, enfin, d'un vide au niveau des enjeux, du gameplay. J'étais très inquiet au début, c'est vrai que le début, comme tu l'as bien dit d'ailleurs, est assez... Il se passe pas grand-chose, on marche énormément, je trouve que ça prend, en fait, quand les mécaniques de justement avec les saisons se mettent en route, et j'ai bien aimé les combos qu'on peut faire en enchaînant différents changements de saison. En fait, moi je joue à la manette et on peut enchaîner très vite, il y a un combo qui peut se faire assez facilement.
L'intégration des saisons, d'ailleurs, pour les changer, c'est très bien fait.
Exactement, le début est plus difficile parce qu'il faut appuyer sur deux touches très rapidement, au début c'est un peu galère, et après je trouve que quand c'est intégré à la manette avec juste une touche, on commence à s'amuser avec le gameplay, de jouer comme ça avec l'environnement. Là, je trouve que la recette prend. Là, on comprend vraiment ce qu'ont voulu faire les développeurs. Là, on capte l'ADN du jeu, ce qu'ils voulaient vraiment faire. Après, je suis d'accord aussi sur le fait que les niveaux sont beaucoup trop... à l'horizontale, en fait. Et en fait, je pense que ça vient du fait qu'il n'y a pas de difficulté, en fait. Il n'y a pas vraiment de demande de skill. C'est pas un jeu de plateforme avec du skill où il faut enchaîner sur tel ou tel mouvement. On est plus vraiment sur de l'exploration. C'est un jeu d'exploration, de découverte. Et ça correspond bien à ce que tu disais sur le thème du conte, en fait. On n'est pas du tout dans un jeu de challenge ou de... On est vraiment dans de l'exploration. Et avec pas mal d'allers-retours au début qui sont... Il faut s'accrocher au début.
C'est même à la fin, hein, même à la fin, on nous demande de revisiter des lieux.
C'est le syndrome du Metroidvania, un petit peu du genre.
C'est que ça.
Qui fait qu'on est pas mal sur le déplacement comme
ça, horizontal. C'est vrai que même si on a finalement quatre versions de chaque décor, mais il y a quand même cette impression un peu pesante de revenir tout le temps aux mêmes endroits.
C'est un jeu qui est un peu prisonnier de sa, je trouve, son découpage. Parce qu'il est quand même scindé en deux parties majeures pour moi. La première où effectivement tu es dans la découverte des pouvoirs, la découverte de l'esthétique et tout ça, et moi je trouve ça formidable. Vraiment pendant les deux premières heures, tout concorde bien, tout s'emboîte bien. T'es dedans, moi j'étais pris dedans, dans une espèce de souffle un peu comme ça romanesque, gentillet et tout ça. Et arrive la seconde où effectivement on te demande de revisiter chaque partie en utilisant le combo de pouvoir qui, dans l'idée, est très bien, parce que c'est du Metroidvania, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un arbre qu'un autre arbre. Et au bout d'un moment, le jeu a des manques un peu incompréhensibles, c'est-à-dire qu'il n'a pas de minimap, il n'a pas de voyage rapide. Et des fois, il te dit d'aller à un endroit, il te montre juste un plan, en te disant c'est là où tu vas,
et tu fais oui, on galère.
Alors ça c'était il y a
en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche.
Ah ouais, et pour moi c'est vraiment dommageable, parce que il y a un gameplay qui est, même s'il a déjà été testé ailleurs, est quand même hyper original, hyper joli, bien pensé dans ses énigmes, même si elles sont légères, c'est un jeu grand public. Et t'as un jeu qui sait pas quoi en faire par la suite. Et du coup, il te fait cavaler dans tous les sens. Alors que leur précédent jeu se passait juste dans un cadre.
Ouais,
et tout le principe était là-dedans. Et là, tu te dis, mais pourquoi faire ça? Pourquoi rallonger bêtement une durée de vie?
C'est un peu l'impression.
C'est vraiment dommage.
Ils n'étaient pas faits pour se diluer, en fait. Swing Swing, c'est vrai qu'ils ont fait deux jeux concentré, mais vraiment où c'était compact en fait. C'était du pur puzzle. Il n'y avait pas de scénario. Le design était était assez carré pour le coup. Sans faire de, je me fais jeu de mots, mais c'est et là on sentait, il y avait une envie de poésie forcément. Il y avait une envie de
vent frais.
Ouais, mais de ces jeux, enfin hein, de peinture, de il y avait des envies d'Okami, il y avait des envies de quelque chose d'un peu je pense qu'il recherchait finalement peut-être cette espèce de wow effect du jeu indé en fait. Voilà, qui fait qu'un jeu indé, d'ailleurs ça a bien marché, enfin les débuts de Swings de Seasons That Matter
oui,
The Seasons After Fall, ça a plutôt bien marché.
Les retours sont bons, il y a eu des
tellement bien marché que le jeu a été confirmé sur console pour janvier.
Voilà, donc c'est
déjà prouvé depuis longtemps, je crois. Ça a été annoncé là,
disons qu'il y avait un peu ce côté presque marketing de bien rentrer dans la case des jeux indé qui marchent. Voilà,
c'est une stratégie de focus aussi, ça, à mon avis.
Il y a ça, et je me souviens que Tetrobot a été vraiment une déception en termes
de
ventes. Que Focus les a rattrapés un peu au dernier moment quand ils pensaient qu'ils allaient passer à la trappe. Et que effectivement, c'est vrai que Focus n'intervient pas forcément dans le développement créatif lui-même, mais c'est un éditeur qui drive les studios, et notamment sur le marketing, parce que c'est leur spécialité. Donc,
moi je suis un peu trop dur, parce que c'est vrai que rien que faire un jeu beau qui fonctionne, qui est pas, en tout cas dans sa première partie, qui est pas chiant du tout, qui est plutôt rigolo à découvrir. Voilà, bon, après on arrive, il y a un moment où on arrive à une sorte de limite. C'est vrai aussi que le faire, moi je ne fais pas énormément de plateformeurs ou de jeux de 2D comme ça. Quelques semaines auparavant, j'avais joué à Inside, qui est une sorte de chef-d'œuvre absolu de ce genre-là aussi, de l'exploration finalement. Là, c'est de l'exploration narrative. Il n'y a pas de parole dans Inside, il y en a.
Une ligne droite.
Oui, c'est
jamais l'aller-retour.
Un plan séquence, un grand plan séquence. Mais je ne sais pas, il y a aussi, forcément tu le compares, forcément il y a des attentes communes aussi. Et là, pour le coup...
Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce qui a vraiment fait du mal, enfin ce qui risque de faire du mal à Season, enfin je lui souhaite pas, mais c'est qu'il y a Ori qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et qui, dans le côté forêt magique, ambiance naturelle, alors beaucoup plus plateformeur évidemment pour Ori.
Très hardcore surtout.
Et hardcore, mais bon, il est quand même plus fini évidemment, beaucoup plus de moyens dessus et de ça, mais il va forcément souffrir de la comparaison, et ça, bon, on n'y peut pas grand chose.
Ceci dit, ça a l'air d'avoir bien marché, tant mieux pour Seasons After Fall.
Un quatrième jeu encore meilleur, j'espère.
Exactement. Peut-être justement un quatrième jeu qui prend tout ce savoir-faire qu'ils avaient développé dans les deux premiers jeux, et puis cette belle réussite, en tout cas esthétique, de Seasons After Fall. On arrive au gros morceau de ce deuxième épisode de la saison 10 de Silence on Joue, parce que c'est le retour d'Adam Jensen dans la série reprise par Eidos Montréal depuis Deus Ex Human Revolution. Et c'est Deus Ex Mankind Divided. Ils peuvent faire des noms aussi plus compliqués, c'est pas assez, hein, comme ils veulent. Deus Ex, c'est maintenant. If you try and rip the world apart, someone will always put it back together. You can kill dreams. You can kill innocence. You can kill freedom. But you can't kill progress. Deus Ex Mankind Divided. Je sais pas, j'ai un accent pourri en anglais en même temps. La division de l'humanité. Et voilà, c'est pas mal ça. Eidos Montréal. Donc on retrouve la formule qui a déjà marché pour l'épisode précédent. Patrick, c'est la même chose.
Oui, on avait quitté Deus Ex. On rappelle que c'est quand même une licence qui date de 2000 ou 99, je crois. 2000, donc ça fait déjà quelques années que ça existe. On a vu une sorte de reboot il y a 2-3 ans. Un peu plus déjà, ouais. Je crois que c'était plus.
Ça date.
Ah oui, Human Revolution, c'est 2011.
Oh merde.
merde.
Et donc ce nouveau... c'est vrai que je voyais ça beaucoup plus récent que ça, mais bon, bah, du coup, voilà...
C'est pour ça que je ne me rappelais pas du tout de l'histoire, en fait.
C'est pour ça que l'intro de 13 minutes au début du jeu nous permet de nous replonger dans le... On a en fait une cinématique d'à peu près un quart d'heure qui nous ramène un petit peu, qui nous rappelle les événements de l'univers de Deus Ex, qui
c'est un problème, hein, cette cinématique.
Qui est chargée. Écoute,
ah, c'est moins un cinématique, un montage de plusieurs cinématiques.
C'est un montage de, oui, de cinématique.
Ouais, mais franchement, moi, je me suis demandé, mais comment j'ai fait pour jouer à ce truc? C'est tout moisi. C'est compliqué à mort. C'est, tu comprends rien. Même le mec, le truc, il résume le truc. Normalement, c'est pour te mettre dans l'ambiance. Tu captes rien. T'as des complots, t'as de l'intelligence artificielle, t'as des trucs partout.
L'univers Deus Ex est lourd. C'est vrai qu'il est, c'est un univers assez complexe et assez compliqué. Et j'avais peur d'ailleurs, en fait, en lançant...
Un effet de ridicule. Mais tu l'as regardé, la vidéo de 15 minutes. T'as un effet de ridicule, genre, après avoir combattu machin à tel endroit, il se retrouve à Hong Kong et puis il va à machin et tout ça, et là il rencontre une présentatrice télé qui n'est d'autre qu'une intelligence artificielle qui vient... J'ai accepté ça. Non, mais c'est là où tu te dis, en tant que joueur avec le gameplay, tu acceptes un nombre de trucs qui sont...
Il y a ça, et si va sur Netflix et tu demandes un récapitulatif de la saison précédente, c'est exactement les mêmes procédés de montage, en fait. C'est que sur une durée totale de, je sais pas, c'était 20h, 30h, le premier Deus Ex, tout ce... finalement, ça passe parce que ton expérience de jeu, elle passe par plein de... Mais c'est vrai que résumé, ça donne un très mauvais scénario de SF. Hein.
C'est dommage parce que l'idée est bonne. Souvent, on lance une suite, on n'a même pas de récap de ce qui s'est passé avant, on débarque dans un univers dont, tu vois, 5 ans après, on ne se rappelle pas forcément de tout. Donc l'idée est bonne. Bon, après, ça sera peut-être gagné à être plus court et à être plus concentré.
J'ai même hésité à lancer le jeu après. Alors... j'ai pas envie de ça.
Et c'est vrai que moi, j'avais un petit peu peur. C'est vrai que moi, j'avais une expérience un peu mitigée sur le précédent. Je me rappelle que l'idée était bonne de redonner un coup de fouet à Deus Ex, qui est un univers passionnant dans ses idées, dans ses notions de, justement, de transhumanisme et de toutes les questions qu'il pose. Moi, j'avais eu des vrais problèmes sur le précédent, avec notamment les boss, les séquences de boss qui étaient pour moi hors sujet total. Ça m'avait vraiment frustré dans mon expérience de jeu. Et donc, j'ai un peu lancé celui-là avec un petit peu d'inquiétude sur ce que ça allait donner. Et non, en fait. En fait, moi, le jeu, il m'a pris direct. Je trouve qu'il nous... Justement, passer cette cinématique un petit peu longue, mais bon, qui nous remet malgré tout dans...
Qui est
dans
complètement optionnel. Hein,
qui est un acte volontaire.
Bien sûr, on choisit de rester devant ou pas. Mais bon, on la regarde. Et en fait, moi, j'ai été complètement balancé dans le jeu. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'ADN de Deus Ex. Qu'est-ce que c'est l'ADN de Deus Ex? C'est ce jeu qui a cette faculté quand même assez singulière, je trouve, de présenter une vraie fusion des genres, une fusion du jeu de rôle, du jeu du FPS, de la gestion aussi de toutes nos facultés, etc. Et ça marche vraiment bien. Je trouve qu'on est vraiment balancé dans l'aventure. C'est à la fois un jeu d'aventure, un FPS. Tout ça se marie très bien. Et on est balancé dans ce jeu qui a, comme on le disait, un background très riche, très épais, avec beaucoup de niveaux d'informations, etc. Mais moi, j'ai trouvé qu'on était vraiment, que ça fonctionnait bien. On a intégré, on a pas mal de choses, on peut lire pas mal de documents dans le jeu ou pas. En fait, on décide vraiment de la façon dont on va le jouer. Ce jeu, il s'adapte à la façon dont on décide de le faire. Est-ce qu'on va aller plutôt vers un jeu d'action? Est-ce qu'on va miser plus sur justement la gestion de ses facultés, etc. Et on a vraiment cette sensation, et pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça le Deus Ex depuis 2000, donc. C'est cette faculté, cette sensation qu'on est en train d'écrire nous-mêmes notre scénario, en fait, en jouant. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, manette en main, sur cet épisode. C'était la sensation de, c'est moi qui décide. Il se passe des choses autour de moi, je suis dans un univers qui a été créé pour m'accueillir, mais c'est moi qui se commande, je décide d'en faire ce que je veux. On me donne une mission, c'est moi qui décide vraiment si je vais aller discuter avec les personnages ou pas, ou y aller de façon beaucoup plus bourrine. Et puis, je trouve qu'il y a une écriture intéressante, même dans les quêtes annexes. Moi, je me suis perdu pendant plusieurs heures sur des quêtes annexes qui étaient donc en marge, qui n'étaient pas obligatoires. Mais j'étais vraiment bluffé de la qualité de l'écriture de ces quêtes, du côté cohérent avec le reste de l'aventure globale. On vit vraiment une aventure en choisissant ce qu'on va aller faire fouiller ou pas, enclencher une recherche d'un contact qu'on nous dit, tu peux y aller ou pas, j'y vais. Et il se passe des choses liées à ce choix que je vais faire. Et on a vraiment, dans ce jeu-là, la sensation que les choix qu'on va faire ont un impact sur l'univers. On sent que c'est concret dans ce qu'on va vivre.
C'est une des forces de ces trucs à choix multiples, mais c'est vrai qu'il y a ces critères de réussite quand t'as des choix un peu comme ça, c'est cette impression de laisser une empreinte, l'impression de ne pas faire un truc, de faire un truc qui compte.
On n'est pas un pion dans un univers qui nous attend, puis une fois qu'on est parti, on n'est plus là. Non, on sent qu'on est vraiment, on impacte sur les personnages qu'on rencontre, les actions. Et ça, c'est bluffant, et je trouve que là, c'est vraiment une réussite pour ça.
Yann, hein.
Moi, j'avais vraiment détesté le précédent. gros fan à la base de Deus Ex et je trouvais que Eidos Montréal avait retenu que du triptyque, infiltration, RPG, action, que le versant action. C'était joli, hein, je veux dire, la DA était très plaisante, un peu trop black and gold uniformisé, mais j'appréhendais énormément celui-là. Ouais. Vraiment, je me disais, non, mais ça appartient au passé, quoi. Enfin, on ne peut plus faire de jeux comme ça, d'autant plus que tu vois, toute l'école Harvey Smith et tout ça est passée chez Arkane, il y a eu Dishonored, en termes d'infiltration, qui a quand même donné des leçons à tout le monde. Il y a eu le dernier Metal Gear, qui a aussi donné pas mal de leçons en termes d'infiltration. Et celui-là, bon, je l'ai commencé, bon, j'avoue, j'ai mis quelques heures quand même à rentrer dedans, parce que je trouve que l'infiltration et tout ça, tout ce qui est gestion découverte, il y a d'une rigidité qui... En fait, il faut l'apprivoiser. C'est un système, c'est... Au début, tu butes si tu t'es un peu habitué à la fluidité des autres jeux. Et une fois seulement que tu te coules dans ce système-là, effectivement, eh ben, je dois avouer que j'étais complètement bluffé par le jeu. D'une part parce que donc, ça se passe à Prague, qui est découpé, on va dire, en 4-5 petits quartiers ouverts. L'espace est très ramassé, déjà. Ouais. Par rapport, on s'attendait à un grand monde ouvert, peut-être. Et en fait, pas du tout. Déjà parce que c'est finalement des mini-hubs où tu vas chercher des missions. Et comme tu as dit, les missions secondaires sont non seulement très bien écrites, mais surtout elles sont très peu nombreuses. Et finalement, eh ben, less is more, quoi. Enfin, vraiment, tu sens qu'ils ont attribué une vraie importance d'écriture à n'importe quel choix que tu vas faire. Et finalement, moi, je préfère presque plus les missions secondaires que les missions principales.
C'est clair, ouais.
Qui sont un peu encore dans ce versant un peu action, un peu bas du front parfois. Alors, c'est vrai que le level design est exemplaire cette fois-ci. Je suis halluciné. Surtout qu'ils ont vraiment bien travaillé tout ce qui est les nouveaux implants cybernétiques où tu peux vraiment beaucoup plus aller dans le piratage, notamment des robots et des caméras.
Avec une interface qui, je trouve, reste accessible. Ouais. On pouvait craindre le pire, vu la complexité quand même justement des équipements, etc. Ouais. Et je trouve que justement, le jeu est construit, on a très peu d'options au début, on les regagne peu à peu et ça fonctionne bien, en fait,
exactement,
malgré la complexité.
Et surtout, comme tu as dit, les fameux combats de boss qui étaient... affreux, parce qu'ils avaient été sous-traités par une autre équipe, sont remplacés, on va dire, par des séances de poker menteur avec... c'est juste une cinématique où tu es en train d'observer la personne avec qui tu dois négocier, tu dois observer les réactions physiologiques, un peu comme dans Blade Runner. Ouais. Et c'est très simplifié, on va dire, il y a trois émotions et tu dois compter le nombre supérieur d'émotions et tu dois orienter ton dialogue par rapport à ça, bah, je trouve ça hyper bien. Enfin, c'est là où le jeu est le mieux écrit. Parce que tu sens vraiment que ta négociation a du poids dans la réaction des personnages. Et puis tu rentres dans un univers. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est que je trouve que la dystopie, pour une fois, est vraiment crédible.
Elle est intéressante,
ouais. Et ça passe par des tout petits détails, parce que le jeu se passe 2 ans après le précédent. Ouais. On va dire que les augmentés, donc les gens bioniques, sont devenus des parias de la société.
Sont ghettoisés. L'aventure précédente finit par une sorte d'attentat global contre eux, qui rend fou tous les augmentés,
qui se mettent
à buter tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc forcément, ça crée une sorte de traumatisme commun à l'humanité, crée une sorte de rejet.
Donc t'es dans des ghettos, finalement, où toi-même, t'es entre les deux, t'es à la fois du côté de la loi et en même temps, t'es mal considéré par les flics qui
nous permettent de passer plus facilement de certains endroits.
Justement, c'est là où j'ai trouvé que le détail était génial, c'est à chaque fois que tu vas prendre le métro pour changer de zone, à chaque fois, je me faisais arrêter par les flics. Et je me disais, mais pourquoi ça devient trop répétitif. Je me suis rendu compte qu'au moment de passer dans les portiques, j'empruntais celui des bio.
Exactement,
et pas celui des augmentés. Ouais. Et je me disais, mais putain, en fait, ils ont vachement bien travaillé le côté quotidien. Et en fait, la rame de métro est partagée, un peu comme dans les apartheid historiques, entre augmentés et bio. Et je me dis, là, il y a de la narration environnementale qui est vraiment, vraiment très forte, en fait.
Les endroits de scène quotidienne, comme ça, on voit, il y a plein de petits détails pensés, justement, sur cette société coupée en deux, sur la ségrégation, sur... C'est super intéressant quand on prend le temps de regarder un petit peu, ou d'écouter, de parler à des personnages.
Vraiment, cet
univers, il est complexe, mais il est passionnant. Je trouve qu'il y a un vrai...
Moi, le truc qui m'a dérouté un petit peu dans ce... Bon, d'une part, le scénario, parce que j'ai quand même un gros problème avec la théorie du complot généralisé du Deus Ex, où les méchants s'appellent les Illuminati quand même. Enfin voilà, on attend les reptiliens. Bonjour. C'est ça, je sais pas. Il y a un truc qui a du mal à passer quand même. Mais en fait, c'est assez marrant. Et là, c'est pas du tout une critique. C'est que dans l'infiltration, moi, je sais pas. On a tous un rapport différent à l'infiltration. Et moi, mon rapport à l'infiltration, c'est ne pas buter les gens, mais les assommer. Ouais, c'est parce que j'aime pas laisser des gens derrière moi, j'aime pas laisser des gens derrière moi qui bougent. Ça me stresse d'avoir des gens qui bougent dans mon dos. Et donc, j'avais... Non mais c'est vrai, enfin voilà.
Dans Metal Gear, je les fultonnais tous, moi. Je voulais plus les voir.
Ouais, mais tu les assommes, tu les caches, voilà. Mais au moins, derrière toi, il n'y a personne, voilà, t'es tranquille et tout. Et en fait, dans Deus Ex, il faut pas... Enfin, si tu commences à faire ça, tu te perds complètement et c'est de la vraie infiltration. D'ailleurs, j'ai appris au bout de quelques ratages quand même assez épiques où j'ai essayé d'assommer tout le monde, sauf qu'il y avait beaucoup de monde, donc ça met quand même beaucoup de temps. Et en fait, là où tu te rends compte, ouais, non mais en fait, je peux passer à côté juste. Et en fait, tu as une sorte de nouveau rapport à l'infiltration où tu passes à côté des méchants sans les assommer ou sans les neutraliser. Et en fait, et du coup, ça donne un rapport comme ça au... Un rapport à l'infiltration. En fait, tu te caches, vraiment. T'es plus là sur une fausse élimination, comme moi j'avais l'habitude de faire sur les Splinter Cell, sur les trucs comme ça. Là, tu te caches, tu passes dans les couloirs, tu les regardes parler, machin, et puis hop, tu te fais pas voir. T'en assommes un quand il est juste devant la porte, et puis et ça suffit, en fait. Et du coup, moi, c'est un nouveau rapport. Et alors, au niveau... voilà. Autant j'ai du mal avec avec l'univers narratif global, de Deus Ex, mais au niveau gameplay, level design, c'est absolument formidable.
Même au niveau scénario, je trouve que celui-ci est plus engageant que le précédent. Ouais, ouais. Moi, je trouve aussi que le premier, enfin donc
celui de, est plus intéressant.
Voilà, exactement, même les événements. Aussi. Et puis parce qu'on est dans une situation de crise tout de suite. Enfin, c'est vrai que vu les événements qui se sont passés dans le précédent,
tu l'as de base d'apartheid en fait, je pense. Que...
C'est ça qui tout de suite pose en plein un univers assez tendu et donne des enjeux beaucoup
deuxième
plus.
Deuxième épisode de la saison de Silence on joue, on est déjà mais pas du tout dans les temps. Mais c'est pas grave, prenons notre temps. Et donc ça, Deus Ex, hein, Deus Ex, Deus Ex, Mankind Divided, c'est sur PC, PS4, Xbox One, c'est une cinquantaine d'euros. J'avais pas donné le prix de Seasons After Fall, qui était 15 euros, oui. C'est le moment d'accueillir Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa formidable, formidable chronique jeu de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Chut. Cette semaine, je vous propose un jeu avec des zombies à l'intérieur. Et vous savez à quel point les zombies sont sensibles au bruit. En même temps, parler pendant toute la chronique avec ce volume sonore, c'est un peu pénible. Donc, je vais reprendre un volume sonore standard. Cette semaine, je vous propose de jouer à Hit the Road, un jeu signé Martin Wallace. Un jeu édité par les Space Cowboys. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10-12 ans pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes. Les spécialistes savent que Martin Wallace est plutôt un auteur de jeux de gestion costaud qui fait mal à la tête. Et avec Hit the Road, pas du tout. Il a changé de créneau. C'est un jeu simple, facile, fun, avec des brouettes de dés à l'intérieur. Le propos est simple, vous êtes une petite équipe d'aventuriers, vous allez devoir traverser des tas de régions et de zones dans lesquelles il y a des zombies qui ne pensent qu'à vous becter. L'idée, c'est d'arriver avec le maximum de survivants à la fin de la partie en marquant des points. Et pour ce faire, on va étaler devant des joueurs des cartes qui représentent des chemins. Avant de choisir votre chemin, il y a un petit système d'enchères pour savoir qui va choisir en premier. Évidemment, c'est intéressant d'être le premier puisque vous allez choisir le chemin qui vous semble le plus facile ou le plus intéressant pour vous puisqu'il y a des stratégies qui se mettent en place pour marquer un certain nombre de points. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez avancer sur les cartes et résoudre ce qui est écrit dessus. Vous allez avoir des combats, jeter des tonnes de dés pour tuer des tonnes de zombies. Enfin bref, de la gestion, de la prise de risque. Parfois, vous allez essayer de gérer au mieux que vous pouvez avec les ressources que vous avez dans vous. Des fois, ça vous semble perdu, puis vous foncez la tête la première pour essayer de vous en sortir. Enfin bref, ça fonctionne, c'est fun, c'est rapide. On prend plaisir, on est tendu, oui. On est tendu parce que les zombies, on croit à un moment donné qu'on est très fort, on a les dés qui sont avec soi, puis ça se retourne, on perd les hommes les uns après les autres, et puis on peut gagner avec un seul. Enfin bref, c'est absolument excellent, on n'a qu'une envie, ça va refaire une autre derrière. Alors le truc génial avec ce petit jeu, c'est que tout le design est absolument excellentissime. Ils ont pris le parti de faire comme si c'était une petite famille qui partait en vadrouille et qui avait recomposé un jeu avec des éléments trouvés à droite, à gauche. Donc vous voyez la petite boîte, tout est marqué à l'intérieur au stylo bille, c'est rayé, on a des jetons de bouteilles, de bouchons de bouteilles à l'intérieur. Enfin, c'est assez excellent, ça coûte moins de 35 euros dans toutes les bonnes boutiques. Je vous rappelle le nom du jeu, It's the Road de Martin Wallace, c'est édité par les Space Cowboys, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10-12 ans. C'est des parties de 30 minutes et moi mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Je ne dirai jamais assez comment ces sites sont absolument extraordinaires. C'est l'heure de parler d'un autre jeu indé français. Le studio s'appelle Le Cartel. Ils sont édités par le célèbre éditeur de jeux indé, ça c'est pas un antinomique, mais bon bref, Devolver Digital, ça s'appelle Mother Russia Bleeds.
Ты думаешь, что справишься без меня? Ты не сможешь. Я тебе нужен. Бери меня.
Subtilité. Mother Russia bleeds dans une sorte de Russie alternative des années 80, je crois. Ah oui, c'est dans ce scénario. Voilà, voilà, voilà. Sergueï, Yvon, Natacha et Boris, des petits personnages absolument romanesques et délicats. Hein, voilà, tout dans la délicatesse avec ce sorte de petite piqûre de remise en forme, hein, de un liquide piqûre. Vert. Voilà, ouais, c'est.
Hein, c'est une drogue.
Oui. Bah oui, voilà, c'est ça. Mother Russia Bleeds, donc, qui est sorti ce mois-ci sur PC, qui va arriver aussi bientôt sur PlayStation 4. Alors, qui va commencer? Tiens, je te. Hein,
oui, Mother, si tu veux.
Oui, vas-y.
Donc c'est un jeu que j'attendais pas mal parce que effectivement, déjà, il y a le côté chauvin. C'est le premier. Non, du studio, pardon.
C'est du blague.
J'aurais pu. Tout à fait. C'est le studio Le Cartel qui signe son premier, premier jeu. En plus, il y a Devolver qui est derrière. Tout ce qui était promotion autour des images, ce pixel un peu baveux, la régénérescence donc du beat'em all à l'ancienne, quoi, le brawler.
State of Rage,
voilà, Double Dragon, tout ça. Dragon. Enfin, vraiment, c'était une curiosité elle avait été annoncée il y a près d'un an et demi. Et là, ça y est, ils sont arrivés enfin au bout. Et donc, on est dans un pur jeu de à la fois qui se veut hommage et en même temps pastiche et en même temps revisite des codes de tout ce qui est ce beat'em all à l'ancienne, donc avec aussi ses contraintes. C'est-à-dire qu'on peut incarner un des quatre personnages, là, donc qui sont des petites frappes qui vivent de combats clandestins et qui deviennent les... ils sont capturés par les autorités, ils deviennent des cobayes d'une expérience, on leur injecte une drogue qui est à la fois hallucinogène mais qui leur donne des pouvoirs surhumains. Et c'est important de dire ça parce que le jeu se distingue là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un bidémo classique, c'est-à-dire que tu as coup moyen, coup fort, projection, tu peux attaquer les ennemis à terre pour les finir. Tu peux utiliser des armes, tout ce qui te passe par la main, ça va de la batte au rouleau de PQ, une prison.
Il n'y a pas de garde, hein, dans ce jeu. Ah, il y a une garde
dans la prison, oui. Et même les ennemis peuvent se battre entre eux, parce que tu affrontes soit des junkies, soit des...
Un bouton de garde.
Ah non, oui. Non, tu as un dash.
Ah oui, t'as un dash.
Ouais, tu peux pas te protéger, effectivement. Mais aussi, tu as cette fameuse drogue, c'est-à-dire que tu as une seringue qui se remplit en trois réservoirs, et quand un ennemi est en train d'agoniser, tu le vois bouger, enfin trembler sur le sol, tu peux aller lui puiser cette drogue-là, et chaque réservoir te permet soit de régénérer ta vie, soit d'avoir un mode berserk pendant 30 secondes, pour faire bien le ménage ou faire une fatality en une chope, soit tu peux soigner tes camarades s'ils sont à terre, ou même leur donner de l'énergie. Donc tu as vraiment une sous-couche un peu plus tactique, vraiment qui est bienvenue. Je trouve que c'est une super bonne idée. Parce que le jeu, on va pas se mentir, on voit les trailers, machin et tout ça, c'est un jeu qui est là pour remettre la baston un peu à l'ancienne, un peu bas du front, un peu hyper physique du truc. Les mecs se sont complètement lâchés sur la DA, sur le côté URSS un peu ubuesque et décadente où tu traverses vraiment... c'est d'un glauquissime mais complètement assumé et gratuit, et en même temps c'est
tellement glauque que c'en est plus glauque.
C'est ça, c'est que ça en devient drôle, c'est qu'il n'y a aucun message derrière. Les mecs ont voulu se faire plaisir, on est limite dans la parodie et le pastiche, donc ça passe vraiment bien je trouve. D'autant plus que techniquement, même si le pixel vraiment fait un peu crade, tout ce qui est animation c'est impeccable. Vraiment, il y a un travail, notamment dans les fonds. Souvent on s'arrête pour regarder les décors parce qu'il y a quand même un peu de narration. Non, mais ça apporte.
On regarde les égouts qui se déversent, on regarde des gens qui vomissent.
Voilà.
Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il est aussi sombre et glauque que les jeux de l'époque étaient clinquants et flashy. En y jouant, j'ai adoré déjà l'ambiance sans concession, c'est gore, c'est méchant, c'est complètement barré. Et j'avais un peu l'impression d'explorer, comme si on explorait un peu les ruines de ce genre, en fait, du beat'em all, qui est un petit peu tombé en ruine depuis longtemps. Et bon, je sais pas si c'était voulu, est-ce que c'était une mise en situation du genre lui-même, mais j'ai trouvé que ce qui est génial, c'est que le jeu va à fond, comme tu disais. c'est gore, ça y va franchement. Il y a des moments où on a même des mouvements pour finir les ennemis un peu à la Mortal Kombat ou à la Splatterhouse. On se rappelle un peu de Splatterhouse, un jeu gore des années 80. On y va franchement, quoi. Mais il sait aussi apporter, moi je prends un pied énorme avec ce jeu, parce qu'on retrouve les mécaniques à l'ancienne qui sont vraiment qui sont respectées, hein, comme je disais, les placements, on est sur un jeu de tempo. On doit gérer ses ressources aussi avec les seringues qu'on ramasse, etc. Ses placements par rapport aux ennemis, c'est ça le beat'em all. On fait attention à comment ils arrivent, comment on se positionne, à ses mouvements. Tout ça est une question de timing. Mais il apporte aussi des choses, par exemple la dégradation physique des persos. Là, on n'avait pas ça avant. Enfin, c'est tout bête. Je sais que le genre est un peu en pause depuis quelques années quand même. Mais je ne me rappelle pas avoir vu un jeu où on dégradait physiquement les ennemis. Là, on les voit se démonter, ils n'ont plus de visage à la fin. Enfin, c'est bon, attention, c'est gore. C'est quand même à réserver un public averti. Hein. On peut, comme tu disais, ça, c'est important, c'est aussi assez rare, c'est de pouvoir terminer les ennemis au sol. Moi, je me rappelle de Target Renegade sur Amstrad, ça date un petit peu maintenant, qui le faisait. Il y en a très peu qui le font, mais ça a l'air tout bête comme ça, mais ça compte vachement dans la façon dont on s'organise sur le terrain de jeu. C'est-à-dire que ça nous prend du temps, on devient accessible par les ennemis. Donc tout ça fait que le tempo est assez serré sur les combats et ça amène pas mal de choses. Alors évidemment, on est sur un genre qui est très répétitif, mais ça, c'est le genre qui veut ça. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie des codes du genre. Donc au contraire, moi, j'ai adoré les ennemis. On a de tout. On a du zombie, on a des chercheurs modifiés, etc. Enfin, on a plein de choses. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des vraies scènes d'anthologie. Moi, je ne sais plus quel niveau exactement. Il y a ce moment magique où on découvre une tronçonneuse. Alors pour moi, je crois que c'est une première, je crois, dans le genre, il me semble.
Hein. À ce niveau-là.
Une tronçonneuse, enfin, c'est complètement... complètement barré. Pareil, elle est plutôt dangereuse en gameplay parce qu'elle prend du temps pour trucider ses ennemis, si on rentre dans la technique. Il y a des vrais moments originaux. Il y a un moment où on doit garder un téléphone et il ne faut pas que les ennemis le récupèrent. Alors, ça a l'air tout bête aussi, là, comme ça, quand on en parle, mais il y a une petite tension parce que s'ils le récupèrent, ils appellent le conducteur du train, je crois, ils arrêtent le train, donc la partie se termine. Donc on est vraiment sous pression, on doit jouer avec un handicap et on sent que les développeurs ont voulu questionner ce genre aussi qui est très codifié, qu'on connaît par cœur, mais apporter une vraie dynamique. Puis il y a aussi ce passage où on est sur des lignes de chemin de fer. Je vous laisse imaginer ce qui se passe. Il y a deux lignes comme ça, on avance et puis il y a des trains qui passent. Et du coup, c'est vraiment rigolo quand on sent qu'il y a une vraie...
Idem sur les combats de boss qui sont à chaque fois une manière de repenser le combat direct et qui n'est pas justement un combat direct. Tu es constamment dans un détournement du truc où tu dois trouver un subterfuge pour vraiment y aller. C'est vrai que il y a des mecs qui pensent derrière. Et au final, moi je trouve le jeu vraiment très très bien. Enfin, c'est une vraie réussite, on va dire esthétique, si j'ose dire. Après, j'ai quand même quelques réserves d'un point de vue technique. C'est-à-dire que je trouve que tout ce qui est hitbox, donc la façon dont... Les coups s'encaissent et tout ça, il y a un vrai... Ouais, il y a un problème sur les décalages entre niveaux d'alignement verticaux notamment. Et surtout, pour moi...
C'est comme ça aussi, hein, les jeux de l'époque étaient aussi pas mal comme ça.
Là, je pense qu'on aurait
Tu vois, par exemple, dans les beat'em all anciens, on pouvait faire ce saut pour se déplacer sur la verticalité et mettre un coup de pied. J'ai l'impression qu'on peut pas le faire, ou alors je ratais à chaque fois.
Ah si, le saut en mettant un coup de pied.
Il est très dur à faire, alors, parce que moi, j'ai eu énormément de mal.
Surtout, pour moi, c'est un jeu qui... Il est jouable en multi qu'en local pour l'instant sur PC. Je trouve qu'en solo, ça n'a quasiment aucun intérêt en fait, parce que soit tu joues tout seul et bon, tu t'enchaînes les niveaux parce que c'est simplifié la difficulté, soit tu mets des bots, c'est une catastrophe. Déjà, il faut enlever le friendly fire parce que tu meurs au bout de deux secondes. Et et je pense que c'est bien qu'il sorte sur console, parce que pour moi, c'est typiquement... c'est le jeu de soirée entre potes, et là-dessus, c'est formidable.
Pour moi, vraiment, il fait partie de ces jeux que tu sors pour passer du temps avec tes potes et qui, malheureusement, c'est compliqué de faire des grandes stratégies dessus. C'est un peu genre, on va taper, rigoler, puis le laisser de côté, passer à autre chose, l'oublier un petit peu. Moi, j'ai jamais été un vrai grand fan de ce type de brawler-là. Je suis plus de l'école 3D Platinum Games. Il faut apprendre à esquiver, parer au bon moment. Et c'est vrai que quand j'ai un jeu comme ça, où finalement, c'est celui qui tape le premier qui a raison, je m'ennuie un petit peu quand même. Mais je dois avouer que toutes les notions de seringue sont vachement bienvenues pour donner justement la profondeur que je peux attendre d'un jeu de ce genre-là. Et je partais avec un a priori plutôt, c'est pas mon genre de jeu, à...
bon, on s'amuse bien quand même, quoi. Voilà. Donc plutôt une bonne surprise.
Juste pour la petite histoire, c'est assez rigolo de la manière dont ils ont rejoint l'écurie Devolver, hein, où ils avaient sorti une vidéo sur YouTube qui avait cartonné. C'était le trailer de la pré-alpha de Mother Russia Bleeds. Et il y avait les gens de Denaton Games, hein, Jonathan Soderstrom et Dennis Wedin, qui sont les créateurs de Hotline Miami, qui ont dit à Devolver, hey, regardez les petits Français là qui sont là.
Il y a un clin d'œil évident à Outland Miami.
Ah bah, quand même,
en plus.
Bon, allez, je vois quel animal peut être concerné. Mais du coup,
en plus, le cartel, son emblème, c'est un coq en blouson qui fait vraiment penser à Outline.
Il y a des samples de Mortal Kombat dans les sons. J'ai remarqué certains sons, certains visuels.
Allez, on va essayer de terminer vite avec un autre jeu, un tout petit peu barré aussi quand même. Que ce soit là dans le gameplay, dans l'univers, dans tout, c'est barré dans tous les sens. C'est Run Gun Jump Gun. Gun, Jump, Gun, c'est de 33, le studio 33, édité par Gambitious, 8€ sur Steam. Voilà, comme ça j'ai fait la note technique tout de suite parce que je ne vais pas l'oublier. Donc, comment dire, on peut tirer en bas, on peut tirer devant. Voilà, c'est un jeu à deux boutons. Tirer en bas ou tirer devant. Voilà.
Je vais en discuter. Mais on va en discuter parce qu'il y a en fonction de lequel tu appuies en premier, il y a un intérêt. Mais du coup, donc on va reprendre au début. C'est un runner. Hein, oui. Déjà. Donc là, les gens, je les vois partir en courant. Oh là là, un runner. Et ils nous apprennent, on n'est pas sur mobile. Sauf que c'est un runner hardcore, quoi. C'est vraiment très, très difficile. Voilà, donc votre personnage a une énorme Gatling. Alors je parle même pas de l'histoire en fait, parce que finalement, je les ai rencontrés à la Gamescom, ces gens-là, et ils m'ont dit, t'aimes les jeux avec histoire? Oui, bah là il n'y en a pas, donc ça ira quand même. Ouais, ça ira, ok d'accord. Voilà. Donc le soleil va s'éteindre, tout le monde va mourir, on te donne un flingue, voilà. Donc tu as ce flingue, une sorte de, voilà, une Gatling et tout, tu peux tirer devant toi et en dessous de toi. Si tu tires en dessous de toi, tu t'élèves dans les airs. Si tu tires devant toi, ça peut avoir tuer des ennemis, interagir avec des éléments, détruire des obstacles. Donc c'est important aussi de savoir gérer ce que tu détruis, ce que tu détruis pas en fonction des niveaux. Donc voilà, donc on avance comme ça tout seul et on meurt. Si on prend un ennemi, voilà, si on se prend un pic, on meurt. Si on se prend une scie circulaire, on meurt. Si on se prend une flamme, on meurt. Si on se prend un mur et qui nous pousse à l'extérieur de l'écran, on meurt. On meurt beaucoup. On meurt beaucoup notamment sur la fin du jeu. Et ce qu'il y a de bien pensé en fait, c'est que les niveaux sont à la fois très durs, mais aussi très très courts. Genre, c'est en ligne droite, en admettant que vous ne mourrez pas sur un niveau, ça.
Faut vraiment l'admettre. Hein.
Ça, faut l'admettre.
C'est la théorie. Hein.
C'est le monde théorique des maths. Hein. Mais voilà, c'est peut-être 15-20 secondes, quoi. Même pas. Ouais. Donc ça va très très vite. Alors évidemment, mais intense, quoi. C'est-à-dire que ouais, vous allez apprendre à passer des patterns complètement dingues.
C'est ce qu'on appelle le jeu en anaérobie. Hein. C'est non, mais clairement. Hein. Moi, je suis essoufflé à chaque partie, à chaque fin. Mais voilà, mais c'est ça, c'est un peu comme le 400 mètres, tu vois, à la fin, c'est vraiment le jeu à Nairobi.
Il est crispant, mais il est juste. Ouais, c'est là où on voit les bons les jeux, c'est qu'il est... voilà, on ne se plante pas à cause du gameplay, en fait.
Non.
On se plante à cause de soi-même quand on fait pas la bonne action.
Et surtout, moi, je me plante à cause de tout. C'est un ensemble. Il n'y a pas que moi qui est responsable.
Hein. Il est juste, tu as raison, d'autant que la hitbox du personnage est extrêmement sympa. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez avoir des six circulaires qui vous passent dans la tête, ça ne vous tuera pas, il faut vraiment que ça vous touche au centre du corps, un petit peu à la mode Danmaku japonais.
Ouais,
une fois ça passe, tu passes un truc, tu vois, il y a un tout petit espace, mais tout ton personnage...
Et là, tu souffles, tu sais que
tout ton personnage est passé, tu fais... il aurait jamais dû passer en temps normal, mais il est passé. Mais finalement, c'est malin, voilà, c'est l'inspiration finalement japonaise des Danmaku. Votre vaisseau est gros, mais votre hitbox est minuscule, ça vous permet de vous faufiler à travers les balles. Là, c'est la même chose, vous filez à travers les obstacles et tout ça. Donc évidemment, un gameplay à deux boutons, et ça joue avec les deux gâchettes. Donc les bumpers, vous savez, les boutons de tranche, voilà. Et donc un bouton évidemment pour tirer en dessous, un bouton pour tirer en face.
Ouais, c'était shift bas, shift droit, shift...
Ouais, bah après on choisit ce qu'on fait. Bon après on choisit comme on veut, de toute façon tout est bindable dans le jeu, donc c'est plutôt agréable. Et alors
c'est de touche, hein,
bindable. C'est ça. Il y a des moments, j'avais plus de nerfs là, et j'ai changé, j'ai passé au pouce, tu vois. Moi. Et du coup, ce qui a été très intelligent de la part de 33, c'est qu'il en fait il y a une priorité du dernier bouton appuyé. Et au niveau de la maniabilité, c'est très malin. Parce que par exemple, il y a des passages où tu sais que si tu tires tout le temps, ça sera pas un problème et ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas placer ton bouton et appuyer ensuite uniquement en alternant avec la Gatling vers le bas. Et ton personnage va automatiquement switcher entre les deux. Ce qui fait que finalement tu n'as plus qu'à gérer les déplacements de haut en bas et ton personnage va tirer. Dès que tu ne tireras pas vers le bas, tu tireras en face de toi.
Bon, moi j'ai recommencé.
Et l'inverse est aussi vrai. Donc en fait, c'est-à-dire que si vous commencez, si vous commencez à tirer vers le bas et que vous décidez de tirer en face de vous, vous allez arrêter de monter. Donc il faut comme ça se faire une espèce de programmation dans le cerveau en disant si je fais ça, ça fera ça, et si je fais ça, il va s'arrêter de monter, il va descendre, mais en même temps, je vais pousser le truc en face. Un petit peu à la Dunwell finalement, on a une corrélation extrêmement forte entre déplacement et attaque dans ce jeu, qui fait que en fait chaque action que vous allez faire va avoir un nombre de conséquences qu'il va falloir prévoir à l'avance ou apprendre par cœur, parce que finalement on apprend au bout d'un moment on répète, voilà, c'est du die and retry. Et moi j'adore tous ces jeux qui vraiment te disent ah oui alors là tu dois te déplacer vers le haut, ah oui mais si tu te déplaces vers le haut tu vas tirer vers le bas, ce qui va activer une roulette, ce qui va te tuer, etc. C'est pas et je finis quand même sur les mauvais points très rapidement. Le jeu est d'une difficulté crasse du début à la fin, mais je trouve que la courbe.
Montre en son
graphique. Voilà. J'ai fait un graphique pour montrer.
Enfin, on va pas le montrer aussi, en parler.
J'ai pas mis le dernier niveau parce que sinon le graphique était complètement fucked up parce que je suis mort 2000 et des bananes fois sur le dernier niveau. Mais comme vous voyez, alors je montre à la télé, mais puis vous pourrez le voir sur le site internet du Journal du Gamer si ça vous intéresse, amis auditeurs. Mais voilà, on peut voir que la difficulté, je trouve, se concentre un peu trop sur la fin.
C'est la caméra.
Se contrôle un petit peu trop sur la fin et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait comme il y a trois mondes qui impliquent trois mécaniques de gameplay différentes, je veux pas les décrire mais grosso modo ça fait vraiment des mondes différents, je pense qu'il aurait mieux fallu avoir trois pics avec un plateau de plus en plus haut derrière pour qu'il y ait un rythme en fait de difficulté meilleur. Voilà.
Patrick, un mot sur Run Gun Jump Gun.
Non, mais j'ai beaucoup aimé. Moi, ça m'a rappelé les jeux Amstrad, genre Airwolf, qui était un peu mal foutu à l'époque, où il fallait jouer sur la
Amstrad,
comme ça, sans la physique.
C'est la dernière plateforme qui
manque. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Je trouve que le jeu est vraiment réussi. Moi, j'aime bien, c'est le côté qu'on voilà, on ne fait qu'une action à la fois. Et vraiment, comme tu disais, tu l'as bien expliqué, c'est vraiment préméditer ce qu'on va faire l'instant d'après. En fait, toujours sur la seconde d'après. Et ça, on parle de secondes, mais pas des secondes, hein, parce qu'une seconde, c'est
énorme.
C'est long, en fait. Et en fait, non, mais c'est vraiment réussi de voilà le fait de devoir choisir à chaque fois est-ce que je tire en bas en haut et c'est une sorte de balai comme ça
qui me sidère toujours c'est cette sensation à partir de disons passer les 10 premiers niveaux de pas savoir pourquoi tu réussis. À chaque fois je sais pas j'arrive à la fin du niveau je sais pas pourquoi
il y a une part de die and retry où
on je pense qu'il y a une part de subconscient de lien direct entre les yeux yeux et les mains qui passe plus par le cerveau et donc du coup ton cerveau comprend pas mais les yeux les mains ils savent voilà ce sera ma conclusion c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et puis on a complètement pété l'horloge de ce dingue mais bon hein, soyons libres c'est internet et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Patrick
un film au cinéma si vous ne l'avez pas vu il est sorti cet été le dernier train pour Busan c'est un choc un film de zombies coréen qui est une grande baffe pour moi une baffe digne du 28 jours plus tard de Danny Boyle en 2002. C'est hallucinant, très peu de défauts, très peu de choses à dire, le film est rythmé, les personnages sont super bien joués, super bien dessinés. C'est un film qui à la fois remplit, cache toutes les cases du film de zombies classique, c'est-à-dire qu'il respecte les codes, mais en même temps, il les bouscule, il a une pêche incroyable. Allez voir ce film, il est encore dans quelques salles, il faut le voir. Voilà.
Corentin.
On est en plein dans la saison 4 de The Eric Andre Show, talk show parodique diffusé sur Adult Swim, donc vous savez cette chaîne qui passe des choses rarement politiquement correctes on va dire, et qui est une espèce d'ovni, c'est très compliqué à décrire, mais grosso modo vous avez Eric Andre qui est un comédien qui avait déjà un petit passif avec des séries de ça et il est très bon, et alors il présente un talk show où il invite des vrais invités, et puis voilà il se passe des trucs, genre des souris commencent à apparaître sur le plateau, un mec tout nu se balade,
voilà, et les invités sont rarement au courant de ce qui se passe et sont vraiment en train de paniquer, de se dire où c'est que je suis tombé. Le talk show est entrecoupé de caméras cachées absolument débiles, donc faites par Eric Randeret lui-même, du style aller se balader habillé en esclave lors d'une reconstitution de la guerre de sécession aux États-Unis, vendre du lait humain, du lait maternel par un homme qui ouvre sa poche de son chemisier et fait du lait, bref. Donc, comme ça. C'est très débile, c'est très idiot, c'est de la cringe comédie à fond. Okay. Impossible à avoir sur des voies légales parce que voilà, c'est diffusé nulle part, mais bon. Je conseille quand même l'épisode 1, le tout premier épisode de la toute première saison est disponible gratuitement sur YouTube. Voilà.
Et ben voilà. Yann.
C'est la rentrée des séries, donc moi je m'y intéresse toujours parce qu'il y a une énorme fournée et très peu s'en sortent. Enfin, il y a un vrai écrémage à faire et là je suis tombé complètement sous le charme d'une série qui est portée par un acteur qui s'appelle Donald Glover, alias Childish Gambino. Ceux qui ont déjà vu la série Community, c'était Troy, qui était absolument extraordinaire. Childish Gambino, c'est son nom de scène parce que c'est un chanteur. Il a fait deux albums de hip-hop qui sont vraiment, si vous aimez un peu le hip-hop expérimental, un peu drôle, très sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est fantastique.
La bibliothèque.
Exactement, voilà. Et il a lancé sa série qui s'appelle Atlanta. Il y a eu 3 épisodes. Très grossièrement, ça parle de lui, un jeune branleur à Atlanta. Il rencontre son cousin éloigné, qui est rappeur et qui tout d'un coup explose sur les réseaux sociaux pour une seule chanson et il décide de devenir son manager. Donc il y a un côté un peu comme ce que fait un peu Orelsan aussi, côté français, côté un peu l'esthétique de la médiocrité. Et en même temps, avec un ton de l'absurde, il y a du Beckett, la bande-son est incroyable. Enfin vraiment, moi, c'est mon coup de cœur. Atlanta.
Voilà. Atlanta. Ah ben, je regarderai. Je n'étais même pas au courant. Moi, je continue avec, j'en avais parlé à l'occasion de Masha et Mishka, mais c'est dans la grande règle hein, des parents qui regardent la télé avec leurs enfants, c'est tout sauf Sam le pompier, parce que c'est très important, il faut trouver des choses qu'on peut regarder avec les enfants. Et en fait, il y a une série qui est formidable pour ça, qui est liée aux jeux vidéo, c'est Les Lapins Crétins, produit par Ubisoft. Sauf que Les Lapins Crétins, il y avait 2 saisons, quand même, de 70 épisodes à peu près. Mais le problème, c'est que sur France 3, il ne passe que ça, et France 4 aussi. D'ailleurs, en fait, rediffuse, enfin jusqu'à nauser Les Lapins Crétins, et ce qui fait que quand, au mois de septembre 2016, arrive la 3e saison des Lapins Crétins, c'est une délivrance. Enfin, des trucs que t'as jamais vus. En plus, c'est très bien, c'est très drôle. Maintenant, c'est la machine à remonter dans le temps à base d'écran à tube cathodique. Et voilà, moi je suis assez fan et ça me fait...
Si c'est mieux que les jeux, c'est tant mieux.
Bah, les jeux, il n'y en a pas eu depuis longtemps de toute façon. Donc, c'est mais soyez pas frustrés. Aujourd'hui, Les Lapins Crétins, c'est la série et c'est franchement très très bien fait. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci. Merci à tous, on se retrouve très vite. Et on se retrouve, d'ailleurs, ne serait-ce que la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo ici même sur No Life et sur Libération et sur les internets. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.